Bonsoir à tous. Donc ce film, il a, à mon avis, l'avantage de camper le décor, si je puis dire, d'évoquer cette question et de montrer aussi qu'il y a un certain nombre de débats et d'efforts pour avancer dans la connaissance et dans la réhabilitation de ceux qui ont été victimes de cette justice militaire. Alors, si vous voulez bien, je peux donner quelques éléments d'explication historique sur ce phénomène de la justice militaire, dont la conséquence la plus choquante a été donc ces fusillés pour l'exemple. Et puis après, on peut échanger, en particulier sur que faire pour faire avancer la connaissance et la réhabilitation de ces hommes. Alors, comme il est dit, notamment par le général Bach. Alors, le général Bach, vous voyez dans le film, c'est lui qui a été nommé entre 1997 et 2002 à la tête du service historique de la Défense au château de Vincennes. Ça s'appelait le CHAP à ce moment-là, service historique de l'armée de terre. Et il s'est intéressé au sujet. C'est pourtant un militaire de carrière, il avait été à la tête de la région militaire de Soissons auparavant dans sa carrière, et il avait donc été confronté à ces traces de la Grande Guerre, que l'on voit évoquer au début du film par ce paysan qui découvre des restes humains et des munitions dans son champ. Donc, et quand il a été nommé à ce moment-là à la tête du CHAP à l'époque, du service historique d'armée de terre, eh bien, il a demandé à ce qu'on lui sorte les registres de la justice militaire, et il a fait un gros effort de recherche. Il a mis des appelés sur le coup, enfin des appelés qui avaient fait quelques études et qui pouvaient l'aider, il a constitué comme ça une équipe, et il a donné une impulsion à cette connaissance. Et on en sait davantage maintenant. Parce que longtemps, on a eu un certain flou par rapport à la connaissance de la justice militaire. On ne savait pas trop. On a souvent associé, d'ailleurs, quand Jospin, en 98, à Craon précisément, fait sa déclaration qu'on voit un petit peu, on voit l'extrait du film, eh bien, toute la presse et tout le monde politique a dit « oui, les mutins de 17, etc. » Or, il n'a pas parlé des mutins de 17, en l'occurrence, il a parlé des fusillés. Donc, on a souvent fait la confusion entre les mutins de 17, même s'il y a eu quelques fusillés au moment de mai-juin 17, l'essentiel, et ça le général Bach le précise, de ces condamnations à mort suivies d'exécution capitale se sont produites au début de la guerre, dans les quatre derniers mois de l'année 14 et dans l'année 1915, plus de la moitié des quelques 660 aux dernières estimations découvertes, recensements. Donc au début de la guerre. Et puis le film l'évoque aussi, il y a eu un effort des associations comme la Ligue des droits de l'homme, d'un certain nombre d'élus. Il faut dire que la Chambre des députés, c'était celle qui avait été élue en 1913 et qui était, disons que les socialistes avaient fait un bon score, et c'était les socialistes de Jaurès. Précision importante quand on emploie ce terme aujourd'hui. Il y avait eu des démarches, des protestations contre les injustices de ces condamnations de la justice militaire, et ça avait conduit à un décret d'avril 1916 qui supprimait les cours martiales, les tribunaux spéciaux qui avaient été mis en place au début de la guerre, des tribunaux à trois juges qui prononçaient des jugements qui étaient immédiatement exécutoires, qui ne permettaient pas que l'on fasse un recours en appel devant un autre tribunal, ou un recours en grâce présidentielle ou en cassation, tout ce qui doit exister dans la justice, eh bien, ces tribunaux spéciaux, c'était en fait un habillage judiciaire d'une décision autoritaire de la hiérarchie qui décidait de fusiller tel ou tel. Voilà. Et donc, ça, ça a été supprimé, donc il y a eu un petit coup d'arrêt, d'où le ralentissement des condamnations à mort, et d'où le fait qu'il y en a moins dans la deuxième partie de la guerre, à partir d'avril 16. Et d'où le fait aussi, alors ça c'est important aussi à noter, d'où le fait que les exécutions sommaires se sont multipliées à partir du moment où les militaires de l'état-major n'avaient plus à leur disposition cet habillage juridique des cours martiaux, des tribunaux militaires spéciaux du début de la guerre. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il y a eu une affaire qui a fait beaucoup de bruit au lendemain de la guerre, parce qu'il y a eu un débat à l'Assemblée et tout. C'était deux sous-lieutenants à Verdun, donc on est en 1916, avril 1916. Verdun, les deux sous-lieutenants en question, Erdouin et Millan, ils s'appelaient, eh bien, ils ont été victimes d'une exécution sommaire approuvée par la hiérarchie. Validée, si je puis dire, par toute la hiérarchie, c'est remonté jusqu'à Pétain. Et donc, les exécutions sommaires se sont multipliées. Et c'est évoqué un petit peu dans le film, la hiérarchie militaire avait la possibilité de pratiquer une élimination sans jugement extrajudiciaire d'un soldat qui refusait l'obéissance. Hein. Et il y avait même dans les dispositifs de montée à l'assaut de sortie de tranchée, ce qu'on appelait le sergent serfil, c'est-à-dire qu'il avait un pistolet, il était derrière, c'était la voiture balai, si je puis dire, de l'assaut, et s'il y en avait un qui se mettait sur le côté, qui n'avançait pas tellement vite, qui se couchait dans un trou de but pour se sauver la vie, eh bien il se prenait une balle dans la tête. Bon, et ce phénomène, il est assez difficile à mesurer. On ne peut en avoir connaissance que lorsque, et c'est arrivé quelquefois, un gradé un peu cinglé et ultra-nationaliste, si je puis dire, s'en est vanté, et il y a eu quelques cas comme ça, ou bien des compagnons l'ont relaté, hein, ce genre d'exécution. Mais elles ont été nombreuses. Et elles ont même pris la forme de véritables décimations. Et on en a quelques cas attestés, notamment parmi les troupes coloniales, décimations. Il y a eu notamment un régiment de Tunisiens qui a manifesté, dès son embarquement de Bizerte, une certaine... révolte contre une affaire dans laquelle ils étaient embarqués et dont ils ne savaient pas exactement combien de temps ça durerait, etc. Enfin, voilà. Il y avait toute une série de revendications et ça s'est terminé par une décimation qui a gardé des traces dans des archives militaires écrites au service historique de la défense. Il y a un collègue historien qui a travaillé dessus, qui a retrouvé des mentions de... que l'on prenne un soldat sur 10 et que on le tue pour intimider les autres. Voilà. Donc il y a eu ce cas-là, et puis il y a le cas des volontaires étrangers aussi, parce que il y avait en France en 1914 beaucoup de gens qui n'étaient pas nés en France mais qui y vivaient, et il faut bien se dire qu'à l'époque il n'y avait pas de carte d'identité. Hein. Il y avait des extraits de naissance, bien sûr, dans les communes où on était né, des registres de naissance, plus exactement, dont on pouvait faire des extraits. Mais au moment de l'enrôlement à la préfecture, ici à Rodez, pour le régiment, je ne sais plus, 122e, je crois, on m'a expliqué. Donc, il fallait... Donc on vérifiait qu'on était bien né ici, donc voilà. Et donc il y avait des régiments d'infanterie pour les Français, si je puis dire, nés en France. Voilà. La notion d'étranger national apparaît en fait en France au moment de la guerre de 14. Et on crée les premiers papiers d'identité pour les étrangers pendant la guerre, 1916. Et on les généralisera à tous les ressortissants du pays au lendemain de la Première Guerre mondiale seulement. Donc, les étrangers qui vivaient là, qui vivaient à Odesse, mais qui étaient nés en Italie, et puis qui étaient venus à je ne sais quel âge, eh bien, ils ne sont pas versés dans les mêmes régiments, ils sont versés dans des régiments de marche de la Légion étrangère. Il faut dire que la Légion étrangère, c'est un corps créé pour les guerres coloniales, créé en Algérie, et qui était encadré par des officiers, sous-officiers, habitués aux pratiques des guerres coloniales, dirons-nous, et puis qui avaient comme clientèle de recrues des gens qui voulaient se faire une nouvelle vie, échapper à une incarcération, voire qui avaient tué quelqu'un et puis qui disaient et qui pouvaient effectivement s'engager, comme ça on n'en parlait plus. Voilà. Et donc, bon, voilà, je ne veux pas être trop long là-dessus, mais dans ce cas-là, des étrangers, ils entraient dans des régiments spéciaux, particulièrement encadrés, et il y a eu aussi des cas de décimation, avec une répression particulière. Si j'évoque ces aspects, c'est parce que les fusillés pour l'exemple, qui sont une question importante, qui ont frappé, qui est une question qui a frappé les poilus, hein. On en trouve dans le récit de Louis Barthas, hein, dans les carnets de Louis Barthas qu'on voit dans le film, de Meunier, de l'Aude, voilà, caporal, et on le trouve dans plein d'autres mémoires, ou bien carnets, ou lettres. Bon, ça a frappé, parce que ce cérémonial était particulièrement choquant. Mais disons que c'est la partie émergée d'un arbitraire. Qui était l'arbitraire de l'état-major et de l'idéologie qui présidait au commandement de l'armée pendant ce conflit, et qui a eu d'autres manifestations. Hein. Et c'est cela, me semble-t-il, que le centenaire de la Grande Guerre doit nous inciter à évoquer, à traiter, si je puis dire. Bien sûr, on va parler de cette question de ce qui doit être fait pour les fusillés, pour l'exemple, c'est quelques 600 ou 700 personnes. Il y avait 2500 condamnations à mort. Il y a eu 14 000 jugements, condamnations des tribunaux militaires. C'est considérable, hein. C'est considérable. 140 000 condamnations prononcées par les tribunaux militaires sur l'ensemble de la guerre. Alors, pas seulement à mort, bien entendu, puisqu'il y en a eu 2500. Mais il y en avait des peines de prison, des peines de déportation aussi, soit de bagne, Cayenne, pas en grand nombre, soit des bagnes coloniaux. Et notamment, c'est la manière, là on va arriver dans l'année 2017 du centenaire, ce qu'on appelait les mutineries de mai 1917, il y a eu peu de recours au tribunal militaire, sauf que Pétain a obtenu en fait de rétablir un peu les cours martiales du début sous une forme temporaire de possibilité d'exécuter sans recours en grâce ou d'appel pendant un certain temps. Mais sinon, la justice, c'était problématique parce que justement, les politiques, les associations et les associations comme les droits d'homme, elles continuaient à exister tant bien que mal pendant la guerre. Et saisir des députés, de faire même des démarches auprès du gouvernement. Et les gouvernements, à certains moments, par exemple, quand Paul Pinlevé était président du Conseil, il pouvait le solliciter pour faire bloquer des choses. Bon. Donc, il y a eu à ce moment-là des recours administratifs militaires à des déportations dans les colonies, et ça a touché quelque chose comme 10 000 par année de guerre, dit par exemple, il y a une collègue, une historienne qui travaille sur le sujet, ces déportations dans les mines militaires pendant la Grande Guerre, 10 000 par année de guerre, avec un taux de mortalité considérable, dans des espèces de bagnes qui étaient en même temps des lieux où les gens étaient affamés, quasiment torturés, si je puis dire, et avec un taux de mortalité qui est de l'ordre de 25%. Elle a fait une étude sur une année, et elle dit, sur les 10 000 qui partent, il y en a 2500 qui meurent dans l'année. Vous vous rendez compte? On arrive à des chiffres qui... Bon, sont au-delà de nos 700 fusillés, par exemple. Donc voilà, il me semble que ce centenaire, il doit nous servir à évoquer tout cela. Tout cela, bien sûr, le cas des fusillés, par exemple, mais ces autres formes de répression militaire, et je terminerai juste là-dessus avant qu'on échange, hein, parce que je ne vais pas être trop long... parce que c'est une question d'histoire, mais c'est une question aussi de... Ça pose la question de savoir comment un pays qui se prétend républicain, qui fait référence à des valeurs de droits de l'homme et de citoyenneté, etc., peut avoir une armée tout en respectant les citoyens qui en font partie, si je puis dire. Les considérant toujours comme des citoyens sous l'uniforme. Et ça, c'était justement l'idée de Jaurès avant la Grande Guerre. Il avait fait un bouquin qui s'appelle « L'armée nouvelle » où il essayait de penser ce que pouvait être une armée dans une république. Et il pose un certain nombre de principes, etc. Dont l'idée de défense nationale, par exemple. À l'époque, on appelait ministère de la guerre. Ministère de la défense est venu beaucoup plus tard. Et c'est comme si on donnait raison à Jaurès beaucoup plus tard dans notre pays. Bon, donc, ça pose ces questions-là qui sont toujours actuelles, si je puis dire. Parce que quand on a des opérations extérieures, comme on dit, hein, des OPEX, là, comme on dit dans l'armée, eh bien, la question se pose aussi de la discipline, des limites de l'obéissance à tel ou tel ordre. On sait tous que dans les guerres coloniales, il y a eu des violations des droits de l'homme qui ont été massives. Voilà. Et aujourd'hui, dans une époque qui n'est plus la période coloniale, on est toujours engagé avec des pesanteurs aussi au sein même de l'institution militaire. Bon, c'est une question actuelle, je ne développe pas plus. On peut échanger sur la question des fusillés et tout le... Et tout ce qui vous intéressera. Voilà.
Qui demande la parole?
Oui, je ne sais pas si l'image est...
Bon, merci. J'ai deux questions à poser. La première, c'est concernant les mutins de la mer Noire. Est-ce qu'il y a eu des fusillés à ce moment-là? Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a en France un monument qui est dédié à ces personnes, aux fusillés pour les hommes?
Alors justement, la libre pensée défend l'idée de monuments qui seraient un témoignage de leur engagement.
La Libre Pensée a lancé une souscription pour ériger un monument à la mémoire de ces fusillés, et il sera érigé dans le Nord, là où les fusillés ont été le plus nombreux. Et actuellement, la souscription est lancée, bien sûr.
Et ça, bien sûr, ce genre d'érection de monument, comme d'autres événements, comme d'autres initiatives, peuvent contribuer à jeter un éclairage, quoi, sur cette page d'histoire et à rendre justice d'une certaine façon. d'une certaine façon, à ces hommes. Ce qu'on voit dans le film, à travers la découverte des tombes, là, on voit ce chercheur de l'Oise, là, un journaliste, membre de la Ligue des droits de l'homme, d'ailleurs, qui a trouvé ces tombes dans le cimetière de Sarcus, dans l'Oise, puis dans le cimetière de Vendresanne, on voit sa rencontre avec le maire. Eh bien, ça aboutit, dans deux cas, à des réinhumations, dont une qui s'est produite il n'y a pas longtemps. Vous avez peut-être vu aux actualités de France 3 le départ de la dépouille d'un soldat, qui s'appelle Julien Lançon, et qui a été justement dans un premier temps inhumé dans l'Oise et réinhumé dans son village natal à Molégès, dans les Bouches-du-Rhône, près de Saint-Rémy-de-Provence. Bon, donc, ce genre de manifestation, ça peut contribuer. Un autre soldat, corse en l'occurrence, avait été aussi réinhumé dans son village il y a quelques années. Bon, tout ce qui peut, au niveau des productions cinématographiques comme celle-là, au niveau des événements, au niveau y compris des démarches devant le monument aux morts, telles que celles que Jean a évoquées tout à l'heure, eh bien, ça contribue, si vous voulez. C'est une œuvre de réhabilitation, à mon avis. Maintenant, la réhabilitation ouvre le débat et nous allons ne pas l'éviter. Ah oui, pardon. Oui, j'ai pas répondu sur le temps de la mer Noire. Alors, à ma connaissance, il y a eu conseil de guerre, il y a eu jugement, incarcération des marins révoltés, enfin, qui étaient mutins, les mutins de la mer Noire, après-guerre. Cette fois-ci, on est au-delà de 1918, dans les années, au début des années 20. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'exécution sommaire ou de décision de condamnation à mort. Et encore une fois, il y a des formes beaucoup plus sournoises et beaucoup moins visibles, et notamment cette question des bagnes militaires, ce qui, dans le langage courant, avait appelé biribi. Mais biribi, c'est un terme un peu générique par rapport à ces espèces de bagnes qu'il y avait notamment dans le sud de la Tunisie, dans le Sahara, est algérien, et ailleurs, hein, au Maroc également, et qui ont eu, étaient des mouroirs en grande partie, hein, qui peuvent être qualifiés ainsi.
Bonsoir, vous m'avez ouvert la porte. Je suis obligé de rentrer.
Entrez.
Quand vous parlez de la guerre de 14-18, moi je me souviens d'un film qui a été interdit pendant 20 ans. Rejoint les droits de l'homme, la patrie de Voltaire, Montesquieu, la poésie, les sentiers de la gloire. Dedans, on trouve tout, on voit tout. Pour vous rejoindre et en même temps amener un tout petit éclaircissement, il faut savoir que les fusillés pour l'exemple, dans la Grande Muette, j'en parle en connaissance de cause, on n'en parle pas. Quand vous rentrez dans une école militaire, c'est le sujet tabou. Il faut savoir que quand vous êtes nommé officier, vous n'avez pas le droit de faire un sujet sur les fusillés, sur l'exemple. C'est occulté. 1914 est occulté. 1915 est occulté. 1916 est occulté. On commence à pouvoir travailler en 1917. Idem pour la Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas parler de 1940. Idem pour l'Algérie, on ne peut pas en parler. L'Indochine, on n'en parle pas. La Tunisie, on n'en parle pas. Et on ne parle pas des fusillés qui sont en ce moment revenus d'Afghanistan, qui sont revenus de Libye, qui sont revenus de Djibouti. Parce qu'à Djibouti, il y a quand même eu 3 morts. Personne n'en a entendu parler. Les corps ont été rapatriés. Ils sont enterrés dans un cimetière en France. J'ai un devoir de réserve. Je ne dirai pas où ils sont. Mais il faut savoir quand même que c'était des amis. Alors, moi, je veux bien Quand on dit on va ériger un monument aux morts, on a voulu l'ériger sous Giscard d'Estaing. Impossible de l'ériger. On a voulu l'ériger sous Mitterrand, ça a été une utopie. On a voulu l'ériger sous Hollande, on a vu ce que ça a donné. Alors moi j'y crois, parce qu'en utopie on est bien, mais il va falloir travailler.
Oui, il faut travailler. Mais il y a du travail qui se fait, alors du travail qui se fait dès l'époque de la guerre, hein. Ça fait un siècle que certains travaillent. Hein. Le cas, l'histoire des Sentiers de la Gloire, du film dont vous parlez, à juste titre, hein, de Stanley Kubrick, en noir et blanc, son premier film, je crois, avec Kirk Douglas, notamment, film américain, en l'occurrence, hein, parce que justement, c'était un sujet tabou à l'époque, et il est sorti en 57, c'est l'époque de la guerre d'Algérie, hein, même la bataille d'Alger, pic, si je puis dire, de la violence de la guerre d'Algérie, et donc, impossible de faire un tel film en France. D'ailleurs, il n'a pas été tourné avec des acteurs français, il a été tourné avec des acteurs américains, comme Kirk Douglas, ou allemands, et il a été tourné en Allemagne et en Belgique. Et l'armée n'a pas voulu accorder aucune facilité, enfin voilà. Et il n'a pas été censuré, c'est pire que ça. Il a été bloqué, si je puis dire. Il n'a été diffusé qu'après 81. Ben oui. Comme quoi, il y a des trucs qui bougent quand même, si je puis dire, trop lentement, mais voilà. Et alors, son histoire, juste pour terminer avec les Sentiers de la Gloire, c'est intéressant parce qu'il s'inspire de deux cas. L'affaire Maupas, hein, l'un des caporaux de soins, dont Blanche Maupas, il y a eu aussi un téléfilm, a défendu la mémoire. Eh bien, l'affaire Maupas et l'affaire Chaplan, hein, un gars qui était fusillé sur son brancard, etc. Bon, il mixe ça, il fait un scénario, et il se sert même du livre de Blanche Maupas, qui avait donné lieu à un premier roman, à un type qui s'appelait Humphrey Cobb, qui était un Américain qui vivait en France dans l'entre-deux-guerres, qui lit le livre de Blanche Maupas et qui fait une transposition dans un roman qui est paru dans la collection Marabout, d'ailleurs, en traduction en France, mais peu de gens l'ont lu. Et alors le jeune Stanley Kubrick, à New York, le lit. Et se dire, je vais en faire un film. Voilà. Donc c'est intéressant comment les chemins de la mémoire, les sentiers de la mémoire, pour le coup, fonctionnent parfois. Alors, certes, on a l'impression que ça fait un siècle, rien n'avance, il y a des blocages, mais les blocages, y compris les blocages de l'armée, quand on voit le boulot du général Bach, bon, après, il y a eu un coup d'arrêt. Hein. 2002, vous savez qu'il y a eu un changement, un nouveau président. D'élu, Chirac, et il a mis fin en gros aux facilités dont ce général avait bénéficié entre 1997 et 2002. Vous voyez à quoi ça correspond à peu près comme période. Bon, donc, il y a des retours en arrière, mais il y a des choses qui avancent quand même aussi. Hein. Et donc, la bataille qui a eu lieu. À la veille du centenaire de 1914, en 2014, entre 2012, date de ce film, et 2014, a porté sur que faire pour la réhabilitation, que faire sur ce sujet-là, hein, des fusillés pour l'exemple. Et le général Bach avait son point de vue, la libre voix de l'homme aussi, la libre pensée aussi, vous avez dans le film Marc Blondel, qui explique son point de vue. On a discuté, nous, avec à la Ligue des droits de l'homme, avec Marc Blondel, avec c'était Christian Hachem, qui était le secrétaire général de la pensée à l'époque. Qui était c'est des amis qui partagent, si je puis dire, partageaient, parce que Marc Blondel n'est plus là, mais le même combat, et la même volonté. Mais avec des approches parfois un peu différentes. Quelle réhabilitation ? Il y a eu aussi des historiens qui ont été consultés. Alors, il a été constitué, vous avez ici Zimet, qui était chargé de patronner la mission du centenaire, qui avait promu un peu cette idée d'une commission. Un conseil scientifique a été mis en place, présidé par Antoine Pro, qui est un historien. Bon, avec un certain nombre de... Alors, on a discuté aussi avec eux, on a essayé de faire avancer un certain nombre d'idées. C'est compliqué. Alors, ce qui en a résulté, c'est insuffisant. Ça a été au musée de l'armée, aux Invalides, l'insertion, si je puis dire, d'un certain nombre de panneaux, de vitrines et de... Comment ça s'appelle, des choses interactives, si je puis dire, des consoles interactives, si je puis dire. Comment ?
Des bornes.
Oui, des bornes interactives, voilà. Avec des dossiers, avec des cas, avec des documents qui apparaissent quand on les sollicite avec le doigt. Là, vous savez comment on fait maintenant sur les tablettes. Bon, et puis des panneaux récapitulatifs, des chiffres, etc. Enfin, ça a été, comment dirais-je, inclus dans le musée de l'armée partiellement. C'est pas suffisant. Mais c'est quand même une chose. Alors, il y a à la fois des choses qui ont beaucoup de mal à bouger, et puis il y a des petits éléments qui avancent, et il faut continuer. Il faut continuer, bien sûr. Il faut continuer à faire ce que nous faisons là, à en parler, à faire des manifestations sur ces sujets-là, devant les monuments aux morts en particulier, et avancer aussi par les recherches historiques. Parce que, pour avoir travaillé à cette occasion-là avec des historiens universitaires, on voit Nicolas Hoffenstadt dans le film, mais il y en a d'autres, Dorez, qui a fait un bouquin, vous l'avez dans la collection Folio, sur 17, en gros, c'est un moment important, et justement, je le disais, on va rentrer dans l'année centenaire. D'autres, il y a une collègue qui travaille sur justement ces bagnes militaires, ces déportations. Bon, donc il y a nécessité d'avancer sur ces sujets-là. Et je pense que, bon, il faut continuer, il faut y aller. Le monument de la libre pensée, bon, très bien, souscription, un monument, ça sera l'occasion de faire des laïus et des discours et des explications devant. Et toute autre forme me semble intéressante. Ne nous disputons pas trop entre nous, parce que bon, on a discuté avec Pierre Roy qui est venu ici et qui défend aussi une certaine conception de la réhabilitation et d'autres. Ce sont des débats qui sont entre nous, qui sont ouverts. De toute façon, avançons dans le sens de l'établissement de la vérité par rapport à la violence autoritaire de cette hiérarchie militaire qui s'est exercée dans la Grande Guerre. C'est un peu ce que je répondrai.
Mais je crois que j'ai grosse voix. J'arrive à prendre ça micro.
Alors, je parle comme ça.
Voilà. Simplement un témoignage. Je me présente peut-être, je m'excuse, ceux à qui je tourne le dos. Je suis premier adjoint à la mairie de Nocelle et président d'une association culturelle sur le secteur. Nous avons été, nous voulions, commémorer la Grande Guerre de 14-18 et nous avons organisé un certain nombre de manifestations, de conférences, d'expositions autour de la Grande Guerre. Et parallèlement, nous avions été sollicités par la Libre Pensée en tant que municipalité pour cette réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Nous avons constitué un petit groupe de travail au sein de la commune et au-delà, et nous avons organisé notamment une conférence sur ce thème-là. Le conférencier, c'est un de nos concitoyens qui s'est attelé à la tâche. Il était ni historien, il était amoureux d'histoire, mais enfin, pas historien ni de métier, ni de recherche jusque-là. Il nous a proposé une conférence qu'on a tenue sur l'ensemble du territoire, sur la commune de Saint-Tresse, qui avait été la première de notre secteur géographique à demander la réhabilitation collective des fusils pour l'exemple. Et suite à cette conférence, suite à une sollicitation de l'ensemble des conseils municipaux, quatre communes, quatre municipalités se sont prononcées. Vous en citez six sur l'Aveyron avec Capdenac, donc je vais vous en donner quatre autres. Bon, bien entendu, Nocelles, Sauveterre de Rouergue, Saint-Tresse et Cap-Jac. Voilà. Et nous avons remis couvert cette année avec un film documentaire qu'on a projeté de manière très volontariste à Caen, et nous le remettrons encore l'année prochaine sur une autre commune pour essayer d'entraîner le maximum de municipalités à prendre position sur ces phénomènes-là. Parce que effectivement, au travers d'une lettre, c'est peut-être pas suffisant, mais au travers d'une conférence ou du visionnage d'un film, on a l'occasion de rentrer un petit peu plus au cœur du sujet et de convaincre tout à la fois sur le plan du cœur, je dirais, et sur le plan de la raison. Et donc je crois qu'il faut allier ces deux choses-là. Bon, on ne va pas faire uniquement de la sensiblerie, mais il y a des témoignages extrêmement émouvants. Vous parliez tout à l'heure en préambule de ces fusillés pour l'exemple aveyronnais. Nous avons eu le témoignage de l'un d'entre eux, d'un de ces aveyronnais, lors de la conférence de Saint-Tresse, qui est venu, c'est Marie, le petit-fils, c'est le bon, qui est venu, monsieur Aron, hein, voilà, qui accepte qu'on le cite. Monsieur Circo, qui a tenu la conférence et qui a travaillé sur ces, d'une manière générale, sur les fusillés pour l'exemple, au niveau national, même au niveau international, parce qu'il y a eu des fusillés pour l'exemple aussi ailleurs qu'en France, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en Angleterre, voilà. Bon. Je vous dis, on peut faire évoluer les choses. Il faut s'en donner les moyens, effectivement, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire qu'il faut un peu mouiller la chemise pour pouvoir y parvenir. Et je crois que, voilà, la réunion... On a réuni quand même sur la commune de Saint-Tresse plus d'une centaine de personnes, qui n'étaient pas obligatoirement des gens qui étaient intéressés par les phénomènes historiques, tout ça, mais qui sont venus parce que ça s'est passé chez eux aussi. Et je crois que, bon, ce soir, on est un petit nombre, mais si on multiplie ce genre de manifestations, d'événements, on pourra peut-être arriver à nos fins, puisque, bon, du moins pour moi et pour l'ensemble de mes collègues qui sont là, il y a plus de... On ne se pose plus la question de savoir s'il faut véritablement réhabiliter ces soldats qui ont été fusillés. Et je le dis d'autant plus volontiers que moi j'ai eu deux grands-pères, j'en terminerai là, un qui est mort à 17 et l'autre qui est mort de maladie de suite de la guerre en 23. Donc, et je n'ai pas de fusillés dans ma famille. Mais en même temps, on se sent solidaire quand cette bataille de Craon. Elle est évoquée dans un autre documentaire qu'on a passé encore cette année à Caen, dont je ne me rappelle plus, j'en ai aucun de souvenir le titre. Elle est décrite, on voit le maire de Craon, mais elle est décrite aussi par un historien qui nous amène au cœur du combat, au cœur de cette montée vers inutile et pitoyable pour les généraux et les gens de guerre. Voilà. Je crois que la France s'honorerait effectivement, alors des politiques ont déjà pris position, on parle de Jospin, Sarkozy sous une autre forme, je crois qu'il est temps qu'on se décide enfin à réhabiliter ces 620 ou 650 ou 670 personnes.
Et moi, j'ai juste une question, parce que
On cherche à réhabiliter, mais est-ce qu'on a cherché à accuser des crimes de guerre, des meurtriers? Parce que ce que vous parlez de la décimation d'Arimont et ici le témoignage, parce qu'à ce moment-là, au lieu de se contenter de juste un nom sur une statue, on peut aussi indemniser des familles, des victimes et aller beaucoup plus loin quand même. C'est du meurtre.
Il y a eu effectivement des meurtres délibérés, je parlais de ces décimations, hein, et dont les traces subsistent dans les archives. Mais disons que déjà l'établissement de la vérité, je pense par rapport par exemple, le processus qu'on a appelé en Afrique du Sud, dans un autre contexte, bien entendu. Vérité et réconciliation. La vérité, c'est la première étape, quoi. Dire les choses, ne plus les cacher, ne plus les nier et les reconnaître. Bon, c'est la première chose. Maintenant, juger. Ils sont morts, hein, tous. Les contemporains sont tous morts et les généraux qui ont provoqué telle ou telle offensive inutile, comme le général Nivelle ou qui ont redonné des mises à mort punitives, ils sont morts aussi.
Une responsabilité de l'État et de l'armée, quand même.
Alors, ben oui, mais déjà, il me semble que c'est une réflexion collective, parce que vous savez, tout à l'heure, vous parliez des autres crimes qui ont suivi, si je puis dire, dans d'autres contextes, d'autres conflits. Vous parliez de Djibouti, je ne connais pas quelle vous faites la vision. Mais en tout cas, moi qui ai travaillé sur le passé colonial de la France et sur donc les guerres coloniales, j'ai bien vu qu'il y avait des crimes massifs qui ont été commis à certains moments. Bon. Et le problème de la vérité sur tout cela est nécessaire plus que passer en jugement, voire même se battre la coulpe en termes de repentance. Je pense que c'est un peu contre-productif de dire cela. Il me semble qu'avant tout, c'est la vérité. C'est de dire les choses et de réfléchir à ce que l'on peut établir comme fait relatif au passé. Il me semble qu'on ait une réflexion collective. Comment en est-on arrivé là? Et si possible, réfléchissons à comment ne pas répéter des choses.
Plus jamais ça.
Voilà. C'est un peu ça l'idée, me semble-t-il, avant tout. Et juste une petite remarque sur un comportement qui m'a intéressé. Par exemple, chez les militaires qui, comme le général Bach, ont maintenant un souci d'ouverture sur 14-18. C'est récent, c'est nouveau, mais c'est depuis les années 2010, mais on, disons, hein. Eh bien, quand avec ces gens-là, on est amené à glisser un peu au fil d'une conversation en disant oui, puis d'ailleurs, au moment de la bataille d'Alger, ceci, cela. Alors, des comportements assez étranges, du genre, commencer par répondre, comme si on est dans la poursuite d'une conversation, et puis, ah ben non, là, je ne. Non, là-dessus, je ne dis rien. Voilà. On sent que le rideau de fer, le verrou, reste. Alors que sur 14-18, on trouve, y compris au sein de l'armée, des gens, au sein du musée de l'armée, par exemple, des gens qui acceptent de dire, bon, ben maintenant, sortons les papiers, montrons-les au public et tout. Donc, voilà, c'est un travail qui est long, qui est difficile, et qui ouvre vers d'autres pages de notre histoire contemporaine. La guerre de 14 n'est pas la dernière étape de notre histoire contemporaine. Hein, bien entendu, il y a eu d'autres événements après. Bon, et il faudra aussi qu'on les dise. On les dise plutôt qu'on juge, on dise un tel a eu telle responsabilité. Je pense que ce n'est pas tellement cela plutôt que de dire les faits.
Oui, on s'aperçoit que ça devient très difficile quand on a des gens qui sont impliqués. Tandis que 14-18, les impliqués, ils sont tous morts. D'ailleurs, ça se passe comme ça. Hein. Vous savez, l'armée, elle a un honneur. Est-ce qu'il est bien placé, c'est un autre problème.
Bonsoir. Deux points particuliers. Le premier, ça rentre effectivement sur les fusillés de 14-18. Et puis je répondrai, puisqu'il y a quelques questions aussi à tout début, de la demande à la mairie de Rodez par rapport à la réhabilitation. Et donner une explication. Première chose, donc, sur la question des fusillés à Véronée. Monsieur Mallier a parlé de 5, aujourd'hui on est à 8 fusillés recensés sur l'Aveyron. 5 fusillés entre 1914 et 1915, qui rejoignent effectivement les chiffres que vous donniez, parce que souvent, on a trop souvent l'habitude de penser que les fusillés, c'est 1917 avec les mutineries, or on se rend compte que la plupart ont été en 1914 ou 1915. Deux fusillés en 1916 et un fusillé, ça va peut-être vous étonner, en 1919. Donc quand la guerre était terminée. Ce qui est un peu particulier, mais qui s'explique aussi parce que c'était un militaire qui n'avait pas été démobilisé, qui était à Oran, et qui, lui, a été condamné pour un double assassinat avec d'autres personnes. Ce qui pose, effectivement, la question, et c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Marie Bondel, hein, qu'il faut mettre dans une sorte de paquet commun tous les fusillés. Il y a des cas qui sont complètement différents. Il y en a un notamment sur Rodez. Il y a deux personnes qui sont recensées sur Rodez qui ont été fusillées. Vous en avez parlé d'un, c'est Georges Aron. Il y en a un second qui s'appelle Espovella. Qui a été fusillé à Toulouse et qui est un espion notoire qui a été condamné à plusieurs reprises. Donc, alors, on peut être bien évidemment contre la peine de mort et j'en suis effectivement un partisan, hein, mais on ne peut pas mélanger des soldats qui se sont révoltés à cause de conditions dramatiques durant cette guerre, et puis des espions ou voire des assassins comme en 1919. Il faut dire aussi que si un certain nombre de soldats ont été fusillés dès le début, hein, de 1914-1915, c'est qu'il y avait aussi quand même, elle n'avait pas disparu comme ça, hein, une idée pacifiste en France. Hein, et malgré l'Union sacrée, ça restait quand même dans les pensées d'un certain nombre de personnes. Et j'en veux la preuve, c'est que Rodez, en 1913, c'est-à-dire un an avant la déclaration de guerre, a vu le 122e régiment d'infanterie se mutiner. Hein. Ça a été un des rares exemples en France, avec Toul, Nancy et quelques autres villes, à avoir une mutinerie à la caserne. Qui a entraîné quand même des condamnations relativement lourdes. Vous parliez tout à l'heure de travaux forcés. Hein. Il y a deux soldats qui ont été condamnés à 20 ans de travaux forcés et qui, à ma connaissance, sont partis ensuite dans des bataillons disciplinaires à partir donc de la déclaration de guerre. Voilà, ça c'était pour les précisions concernant l'Aveyron. La plupart des autres soldats en dehors des deux qui sont à Rodez encore. Hein, Georges Aron était né à Rodez, mais il habitait Espalion, il était ébéniste sculpteur. Les autres habitaient dans des villages, hein, de l'Aveyron, si je me souviens bien, l'Estrade, il y avait Brusque, etc., etc. Voilà. Donc, quelle a été la position de la ville de Rodez par rapport à votre demande, effectivement, de réhabilitation? C'est que ce n'est pas, je pense, aux mairies à régler ce problème par le manque, je dis bien par le manque de courage, hein, à la fois de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des députés, mais aussi des gouvernements. Gouvernements successifs que vous avez mentionnés, que ce soit depuis le général de Gaulle, en passant par Giscard d'Estaing, en passant par Mitterrand et tous les présidents, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un manque de courage. C'est au président de la République, c'est aussi à l'Assemblée nationale de réhabiliter les mairies peuvent faire quelque chose, c'est inscrire sur les monuments aux morts de leur commune, effectivement, ces soldats qui ont été fusillés. À partir du moment où il y aura une commission, et vous en avez parlé dans le film, une commission indépendante qui pourra traiter de chaque cas, et à partir de là, réhabiliter effectivement tous les soldats qui pourront donc être réhabilités par cette commission. Et c'est à partir de là que les mairies pourront prendre position. Mais c'est trop facile de demander aux mairies de prendre position, alors que au niveau gouvernemental, au niveau de la présidence, au niveau des députés, il y a un manque de courage certain. Le seul qui a eu un peu de courage, ça a été effectivement Lionel Jospin à l'époque. Malheureusement, et vous l'avez dit, ça a été enterré à partir de 2002. Et vous avez parlé effectivement du général Bach qui effectivement a été moins remercié. Donc, je pense que là aussi, pour, à un moment donné, il va falloir qu'au niveau du gouvernement et au niveau de l'Assemblée nationale, ils aient ce courage-là. Et ils pouvaient l'avoir, effectivement, avec les commémorations de 14-18 pour le centenaire. Voilà.
Sur la question des inscriptions aux monuments aux morts, vous savez que ça dépend des mairies, ça. Et on a constaté d'ailleurs que dès l'époque de la guerre ou des lendemains immédiats de la guerre, certains noms de fusillés ont été inscrits d'autorité par le maire sur le monument aux morts du village. J'ai des exemples très précis, de telle commune de Corse, où le maire a dit « celui-là, je mets son nom, et puis c'est tout, et personne n'a été retiré ». Donc c'est vraiment du ressort de la mairie. Contrairement à la question du label « Mort pour la France », qui est une inscription marginale sur les registres d'état civil, et qui correspond à un certain nombre de critères bien précis et fixés. Mais en tout cas, n'importe quel conseil municipal peut dire « ce nom-là, je le mets sur le monument aux morts ». Voilà. Et ça s'est fait depuis longtemps. Sur la question des espions et des cas, des différents cas, il y a alors, et c'est difficile parce que il faut vraiment faire l'histoire de chacun des cas telle qu'on peut la reconstituer à partir des témoignages, des lettres s'il y en a, des éléments de la justice aussi, qui ont gardé dans les registres des traces. Bon, il faut vraiment faire l'histoire de chacun. Et la question des espions, par exemple, c'est délicat, parce que la Ligue des droits de l'homme, par exemple, au lendemain de la guerre, a pris la défense de plusieurs cas dont ils demandaient la réhabilitation de civils. Il y a par exemple un cas d'un instituteur qui, quittant devant l'avancée de l'armée allemande son village, a été arrêté un peu plus loin et il a été trouvé en possession d'une cartouche dans sa poche et d'une carte d'état-major probablement pour se repérer dans sa pérégrination. Et il a été traité d'espion et il a été fusillé. Et d'autres cas comme cela de civils traités d'espions. D'ailleurs, votre affiche, par exemple, c'est un civil, c'est pas un militaire, qui est. C'est un espion, si je puis dire. Il n'y a pas de. Sauf erreur de ma part. Et d'ailleurs, dans. Non, celui-là, pardon. Je confonds avec une autre image qui est souvent utilisée, y compris comme affiche, et qui est visible dans le film, où on voit quelqu'un qui n'a pas d'uniforme, et donc c'est un civil. Non, mais effectivement, l'affiche, c'est bien un soldat, puisque. Oui, ça, c'est un dessin. Donc, alors, l'accusation d'espionnage reposait parfois sur des soupçons. Bon, un instituteur, d'abord, est-ce qu'il n'est pas. Il y avait un soupçon. Dans l'entrée en guerre vis-à-vis des défaitistes, des socialistes, des gens qui pourraient être de mauvais patriotes, et des instituteurs, y compris dans l'armée par la suite, ont été souvent soupçonnés. Et puis, il y a tous ceux qui avaient des noms alsaciens, des noms luxembourgeois, qui n'étaient pas d'ici, et qui, pourquoi celui-là, il brûle des feuilles dans son jardin, parce qu'il ne fait pas des signaux pour les zeppelins de l'armée allemande. Pourquoi celui-là, il a des pigeons voyageurs dans son pigeonnier, parce qu'il ne fait pas passer des messages. Et il y a eu des jugements expéditifs ou des exécutions sommaires de ce type. Donc, c'est aussi une espèce de continent encore mal exploré que les accusés d'espionnage, y compris des civils, jugés par les tribunaux militaires. Parce qu'au début de la guerre, les tribunaux militaires ont été jugés compétents sur l'ensemble du territoire, y compris pour juger des civils. Et donc, il y a eu une espèce d'état de siège, d'état de guerre même, en violation de l'état de droit, et une place donnée à la justice militaire considérable. Voilà. Donc, quelques éléments par rapport à ce que vous avez dit.
Ouais, je voudrais intervenir, mais en fait, le sujet sur lequel je voulais intervenir, ça a été déjà un peu évoqué par le monsieur, par vous-même, mais le problème de la rééducation collective peut aussi venir de la base, de la population, ou de ses représentants, des élus municipaux. Par exemple, dans le secteur de Nocelles dont je fais partie, sur la communauté de Nocelles, il y a 10 communes, 4 ont opté pour, par l'élection du conseil municipal, pour la réhabilitation collective. Qui l'aurait dit, qui l'aurait cru, quoi. Hein. Et je pense que si une action était menée sur le territoire, un peu, de fait, toute modestie, évidemment, à prendre en compte, un peu comme ça a été fait par la monsieur Méternocelle, et qu'il y ait des réunions comme aujourd'hui, ou conférences ou autres, eh bien, il pourrait y avoir dans toutes les communautés de France des tas de municipalités qui opteraient pour la réhabilitation collective. Imaginez un peu, même si ce n'était pas une majorité de communes, le poids moral que ça ferait et que tout ça soit déposé devant le ministère de la Justice. Parce que, en fait, ce sont les députés qui sont à faire l'objet d'une loi, la réhabilitation. Elles ont été. La dernière proposition a été rejetée par le Sénat ou par l'Assemblée nationale, alors qu'en fait, je pense que dans le territoire, hein, il y aurait peut-être, non pas une majorité, mais beaucoup d'élus, des maires, donc, qui, peut-être, s'ils épousaient un peu le costume de maire et qu'ils portent cette commune où il a été opté pour la réhabilitation collective, et que cette idée soit portée à l'Assemblée nationale, ça pourrait pas être changé la norme.
Alors, en fait, ça, à mon avis, ça peut difficilement être l'objet d'une loi. Parce qu'il peut y avoir des lois d'amnistie. Des lois d'amnistie qui sont des lois qui décident de dispenser de l'exécution d'une peine quelqu'un qui a été condamné. Ça, c'est une amnistie. C'est quelqu'un de vivant qui a été condamné et dont on dispense d'effectuer sa peine. En revanche, là, on est par rapport à un phénomène historique passé dont tous les protagonistes sont morts, et il s'agit d'un processus. Pour moi, la réhabilitation, on est en train de la faire, si je puis dire. Et d'ailleurs, il y a une brochure qui avait été publiée par la Ligue des droits de l'homme au lendemain de la guerre, dans les années 20, 21, 22, je ne sais plus, qui reproduisait le discours du secrétaire général de l'époque, c'était Henri Guernu, bon, qui avait fait dans la région lyonnaise un meeting pour le cas de Chaplin, hein, du lieutenant Chaplin. Et ses parents étaient là, donc on était au sortir de la guerre, quoi. Et il termine son discours en disant « Chaplin est réhabilité ». Voilà, nous sommes ici, nous le proclamons et nous établissons les faits par rapport à ce qui lui est advenu et nous œuvrons, nous sommes en train de faire une réhabilitation. Il me semble que Jospin a fait un acte important, il pourrait être reproduit, si je puis dire, ou prolongé et complété par une nouvelle déclaration présidentielle, pourquoi pas, mais c'est un processus, la réhabilitation. C'est un ensemble d'actes dont tel monument, telle déclaration officielle peut être des jalons, mais il ne me semble pas que ça puisse relever d'une loi au lendemain de laquelle on pourrait dire « bon, ça y est, maintenant c'est fini, on rentre chez nous, on a fait le boulot, on parle d'autre chose ». Le débat est clos. Non, j'ai essayé de montrer que bien des aspects de l'arbitraire de l'armée pendant la guerre est très mal connu aujourd'hui. Cette histoire des déportations, c'est quand même un truc massif et important, et on le connaît mal. Bon, il faut continuer, si je peux dire, là-dessus. Donc, ce que l'on fait, ce qui peut être fait autour des 5K ou des 7K, je ne sais pas, y compris pour connaître leur histoire précise, la part de droit commun et de pas droit commun, parce que c'est compliqué. On peut qualifier quelqu'un d'assassin de droit commun et puis se rendre compte que s'il a frappé ou tué un de ses officiers, c'était peut-être aussi pour une raison. Enfin, c'est compliqué, hein. Donc il faut vraiment essayer d'avancer dans l'étude de chacun des cas, avancer sur les cas précis, ceux de chaque département, essayer de préciser notre connaissance de ces processus qui doivent être établis. À mon avis, on ne peut pas s'en sortir par une loi. On ne peut pas non plus tout miser sur quelques mots dans une déclaration présidentielle. C'est le débat qu'on avait eu avec Marc Blondel, par exemple, qui disait « Moi, je connais Henri Guénaud parce qu'il était au Conseil économique et social avec moi. Il écrit les discours de Sarkozy. » Et je vais lui dire de mettre ça dans le discours de Sarkozy, et puis ça sera gagné. Ben, on lui disait, bon, ma foi, c'est Sarko qui dit un truc, on a l'habitude qu'il puisse dire le contraire le lendemain, et qu'il ne pense pas ce qu'on lui a écrit. ça ne nous ferait pas la fin mot de l'histoire, à notre avis. Bon, ben, c'est un débat, hein. Voilà.
Bonsoir. On a vu dans le film un maire et un instituteur faire œuvre de transmission envers les jeunes générations. Donc je me pose la question, est-ce que nos manuels scolaires et la façon dont les enseignants traitent cette période devant les scolaires est vraiment la bonne? Je m'adresse à l'enseignant que vous êtes.
Il y en a d'autres, hein, des enseignants ici, et ils peuvent... donner leur point de vue, y compris ceux qui sont dans des classes aujourd'hui, ce qui n'est pas plus mon cas. Je dirais qu'il y a quand même des choses qui peut-être, je ne sais pas trop comment évolue l'enseignement de la Première Guerre mondiale dans sa présentation. Moi, je dirais, bon, né après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on m'a appris à l'école et ce que j'ai appris après en l'enseignant, je me suis rendu compte en travaillant sur le sujet que c'était que ça laissait de côté une bonne partie de la vérité sur la Grande Guerre. Donc, ça n'avait pas bougé, je veux dire, le récit, la narration de la Grande Guerre entre les lendemains de celle-ci et... la période des années 80 où sort le Sentier de la Gloire au cinéma et on commence à parler de ce sujet, ça n'avait pas beaucoup bougé. Il me semble que ça a bougé un peu, mais alors maintenant je ne sais pas comment ça se passe dans les manuels et dans les classes. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot.
Moi j'enseigne vraiment l'histoire. Alors, ce qu'il faut voir, bien sûr, c'est que la place de la Première Guerre mondiale, elle a tendance à quand même un petit peu diminuer, hein, au fur et à mesure des années que la période contemporaine s'allonge. Et c'est vrai que maintenant, alors surtout au collège, on va quand même beaucoup insister sur le vécu des poilus, sur les souffrances à partir de témoignages. Et donc on met davantage ça en avant que la vision des opérations militaires, le déroulé événementiel, etc. Donc, ça me semble quand même assez intéressant la façon dont c'est enseigné, même si c'est relativement court. Parce que à partir des témoignages vraiment qui reflètent la souffrance, la réalité des combats, je pense que quand même le message qui passe derrière, c'est pas un message du tout militariste. Bon, sans être non plus, on ne peut pas non plus croire, voilà, c'est pas non plus un message antimilitariste, bien sûr. Hein. Mais bon, ça me paraît quand même assez intéressant.
Oui, je voulais revenir sur la question de la loi et sur la question de le fait que les personnes ont commis des crimes contre l'humanité. Les officiers... moi, j'entends bien ce que vous me dites, qu'il faut étudier, etc. Mais en fait, là, quand vous vous posez comme ça et que vous dites vous réhabilitez en tant qu'historien. Et je comprends bien que c'est votre position, mais il semblerait important que l'État français reconnaisse, comme a pu reconnaître par exemple la question du Veldivet, parce que quand même la question du Veldivet, on a attendu combien de temps pour entendre un président dire qu'on n'avait pas été très bon sur le coup. Je veux dire, c'est quand même assez scandaleux que l'État français, à un moment, ne dise pas bon, ça c'est pas normal, on a des assassins qui ont commis des crimes contre l'humanité et qu'en plus certains d'entre eux ont encore des plaques et des noms de rues à leur nom, et que ça c'est quand même quelque chose qui pourrait être quand même remis en cause. Il y a des généraux, par exemple, vous allez à Saint-Côme par exemple, vous avez une plaque avec trois généraux qui sont des assassins. Un notamment qui a fait la répression contre la commune de Paris. Bon, alors, on reconnaît, il y a plein d'enfants et petits-enfants qui sont morts au front aussi. Alors, du coup, on se dit, bon, ben, ils ont quand même aussi donné de leur sang, et je pense que quelque part, ils avaient une certaine honnêteté par rapport, intellectuelle, par rapport à l'idée qu'ils avaient de la France. Ceci dit, c'est quand même des gens qui ont envoyé des milliers de personnes à la mort certaine, simplement parce qu'ils étaient incapables d'être au poste qu'ils occupaient. Quand par exemple, à la Rossignol, en une journée, il y a 24 000 morts, c'est au début de la guerre, hein, je crois que c'est le septembre 14, 24 000 morts en une journée, on se dit, waouh, comment on peut le lendemain renvoyer les gars en disant, il y en a eu 24 000 hier, peut-être qu'aujourd'hui ça ira mieux, quoi. On a quand même un problème avec l'armée en France, c'est qu'elle fait quand même régulièrement des horreurs et des erreurs, et que c'est comme toujours, c'est tout bouffé un mot, c'est comme si ça passait par perte et profit des pauvres qui, eux, ont laissé la peau.
Juste un mot sur les noms des généraux de la Grande Guerre. Il est assez intéressant de noter que Nivelle n'a pas été ni sanctionné ni condamné pour les offensives absurdes qui ont été meurtrières qu'il a menées, mais il n'y a aucune rue Nivelle, même dans son propre village natal. Bon, alors c'est la moindre des choses, mais ça dit quelque chose, si je puis dire, hein. Bon, ben, est-ce suffisant? Je vous laisse.
Pétain est mort maréchal.
Je sais bien. Mais on n'a pas de Pétain. On en a eu, mais...
Mais il n'est plus maréchal. Il faut savoir que quand il a été enterré...
Il faut savoir que quand le maréchal Pétain, enfin, le maréchal en 1921... Quand il est enterré à la fin de la guerre, après son procès, il perd le titre de maréchal. Le titre de maréchal, c'est comme le titre de première classe. C'est un honneur de la part de l'armée. dont il est descendu général 5 étoiles. Personne ne peut s'arroger ça. On ne peut pas. On peut dire la grande muette, oui, ce qu'on veut, machin, pas d'un coup fin, mais là-dessus, elle a été droite dans ses bottes, elle a dit, il n'y aura pas de... Et pour preuve, c'est que le gouvernement de 58 voulait appeler un char d'assaut le char d'assaut de Pétain. Ça a été refusé. Après, ça a été Nivelles, ça a été refusé. Foch, ça a été refusé. Joffre, ça a été refusé. Il a fallu qu'on attende quand même pas mal d'années pour avoir un nom de maréchal de France. Leclerc.
Et le char, s'appelle comment ?
Charles Leclerc. Le seul char qui fait, enfin, c'est, je ne vais pas faire de pub, mais c'est le seul char qui fait 180 degrés dans le sable sans bouger. Le gars à l'intérieur, il met un œuf, l'œuf, il ne bouge pas. C'est comme l'œuf de chevaux. C'est impressionnant à voir, mais c'est vrai. Il fait 180 degrés, l'œuf, il ne bouge pas. Bon, ça, c'est l'anecdote pour faire rire. Mais il faut savoir quand même qu'il y a... Alors, je vais compléter ce qu'avait posé comme question le monsieur tout à l'heure. Il faut savoir que dans la mer Noire, ok, on ne le sait pas, mais dans les Dardanelles, on le sait. L'armée française, c'était... Elle envoyait, c'était pas un sergent, c'était une compagnie qui partait en premier, venait derrière une autre compagnie. Le gars qui était par terre, s'il était par terre c'est qu'il, et qu'il y regardait, c'est qu'il n'était pas mort. Donc on le tirait obligatoirement. Et ça, c'est une preuve. On peut le vérifier partout. Alors, quant aux autres pays qui ont eu aussi, comme je suis très proche de la Nouvelle-Zélande en a eu quand même 175. 175, dont 25 sur un bateau qui retournait en Nouvelle-Zélande. Tout ça parce qu'ils avaient demandé à pouvoir, quand ils se sont arrêtés, à pouvoir se baigner dans le port. Et on leur a refusé.
Une dernière question, intervention.
En tout cas, pour ma part, moi je voudrais dire qu'il faudrait essayer de hâter un peu les choses, sinon non seulement il n'y a déjà plus des témoins de la Grande Guerre, des témoins directs, mais bientôt il n'y en aura plus. Même chez nous, si nous continuons, on aura nos fusillés pour l'exemple, et on n'aura rien fait si nous continuons dans cette voie. Je voudrais aussi, mais il le sait, rappeler à M. Cosson que l'armée, normalement, a trié les gens qui étaient accusés d'espionnage, ou de délits, ou de crimes, de droit commun, et qui ne figurent pas dans les listes qui ont été retenues par les uns et les autres.
Allez regarder sur...
Mémoire des hommes, Jean-Michel.
Pardon ?
Allez voir sur Mémoire des hommes, oui, la commission qui a travaillé.
Oui, oui.
Il y en a 948, il en reste 618, des autres ont été sortis. Parce qu'ils sont considérés comme des droits communs.
Non, non, c'est faux.
Si, c'est faux.
Avoir
le micro.
J'ai une petite voix. Je peux répondre. Sachant quand même que, comme vous voyez bien, que je connais mémoire des hommes, avec effectivement toute la documentation extrêmement précieuse qui se trouve, effectivement, et que vous pouvez évidemment consulter sur Internet très facilement. Et donc, si vous faites une recherche que vous tapez Aveyron, vous avez 8 noms. Parmi ces 8 noms, vous avez un qui s'appelle Espombélan, et vous avez tout le procès, etc., enfin, toute la procédure de condamnation, etc. Et il est accusé, d'ailleurs, à plusieurs reprises, d'espionnage. Et il est compté parmi ces.
Et c'est pour ça que nos chiffres divers, vous dites, nous n'en avons que 5, puisque ces 3-là, nous les exprimons.
Là,
nous aussi, on sait lire.
Bien, ben écoutez, le débat continuera et notre travail surtout essaiera d'être aussi.